Et d'abord direction Nauru, l'un des plus petits pays au monde, situé dans le Pacifique, à côté des Fidji, de la Nouvelle-Calédonie et un peu plus loin de l'Australie. Eh bien, figurez-vous que vous pouvez devenir ressortissant de Nauru. L'île a récemment lancé un programme d'accession à la citoyenneté moyennant finance, et cela afin de pouvoir payer son adaptation au changement climatique. En effet, Nauru, comme d'autres nations insulaires, vit sous la menace permanente de la montée des eaux. Bonjour Grégory Pless.
Bonjour, bonjour à tous.
Correspondant d'RFI à Sydney en direct avec nous pour la Une en Asie ce matin. Grégory, pardon pour cette question brutale, mais dites-nous pour commencer, quel intérêt y a-t-il à devenir ressortissant de Nauru ?
Eh bien, tout simplement, il y a quand même pas mal de gens qui pensent qu'avoir deux passeports plutôt qu'un, ça peut être utile. Et dans le cas de Nauru, avec cette nouvelle politique, c'est effectivement devenu assez simple. D'abord, il n'est même pas nécessaire de vivre sur place. Cela vous coûtera, en revanche, un peu plus de 100 000 dollars américains. Et à vrai dire, l'une des seules conditions requises au-delà de ses finances, c'est d'avoir un casier judiciaire vierge. L'autre intérêt, bien sûr, c'est qu'avec un passeport de Nauru, vous pouvez entrer dans plus de 80 pays à travers le monde sans aucun visa, parmi lesquels notamment le Royaume-Uni, la Russie, Singapour ou encore la Corée du Sud. Ce qui fait en fait du passeport de Nauru le 52e le plus puissant au monde, c'est-à-dire qu'il offre une liberté de circulation plus importante par exemple que les passeports émis par la plupart des pays africains et même que de certains grands pays asiatiques comme l'Inde ou le Vietnam. Ajoutons que les objectifs de Nauru en la matière sont plutôt modestes. Ils espèrent ainsi vendre une soixantaine de passeports cette première année et environ 500 sur toute la durée du programme, de quoi donc rapporter environ 50 millions de dollars, de quoi financer, d'après le gouvernement, un projet de déplacement de la population vers des terres moins exposées à la montée des eaux. Et visiblement, il y a un intérêt, notamment de la part de ressortissants venant de Chine, du Moyen-Orient, ou encore, et ça c'est plus étonnant, de la part de citoyens américains, puisque depuis la réélection de Donald Trump outre-Atlantique, un nombre grandissant de personnes, en tout cas ceux qui en ont les moyens, cherchent à obtenir une deuxième nationalité.
Mais alors, on vend dans ces passeports pour une somme assez faible, est-ce que Nauru ne risque pas justement, Grégory, d'affaiblir son passeport et donc l'intérêt qu'il pourrait représenter pour ses clients potentiels ?
Et si, bien sûr, c'est le risque porté par tous ces programmes qu'on appelle ceux des passeports dorés. Je vais vous donner par exemple l'exemple d'un autre pays du Pacifique, Vanuatu, qui avait lancé il y a quelques années un programme similaire. C'était suite à un cyclone particulièrement dévastateur et l'idée c'était de vendre des passeports pour financer la reconstruction du pays. Le problème c'est que l'Union européenne, où il était possible d'entrer sans visa avec un passeport du Vanuatu, a fini par retirer son agrément parce qu'elle estimait que la nationalité vanuataise avait été accordée sans suffisamment de contrôle. Alors pour ce qui est de Nauru, ils s'assurent qu'ils sont plus prudents. Ils espèrent se prémunir de ça, comme je vous le disais tout à l'heure, en refusant les candidats qui ne disposent pas d'un casier judiciaire vierge. Il y a par ailleurs des ressortissants de certains pays considérés à risque qui ne sont tout simplement pas éligibles. C'est le cas de l'Afghanistan, la Corée du Nord, du Myanmar, du Soudan, de la Russie, de la Biélorussie et du Yémen. À voir maintenant si cela suffira à rassurer les pays qui acceptent actuellement l'entrée des détenteurs d'un passeport de Nauru sans visa sur leur territoire à l'avenir.
Grégory Pless en direct avec nous de Sydney pour la Une en Asie. Merci à vous.